Urbaflore. L'émission du Conservatoire botanique national Pyrénées et Midi-Pyrénées. Les orchidées au menu de cette troisième émission Urbaflore, toujours en compagnie de Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lisa.
Chargé de conservation au CBN, le Conservatoire botanique national de Pyrénées et Midi-Pyrénées. Les orchidées, donc les habitats, sa reproduction, sa protection, son étymologie, quelques chiffres peut-être pour commencer.
Déjà bonjour à tous. Je vais cibler mon propos plutôt sur les orchidées de France métropolitaine. Je ne vais pas parler des orchidées tropicales. Alors les orchidées, elles font partie de la famille des orchidacées. On en compte environ 30 000 espèces dans le monde. Et en France, il y en a environ 160 espèces. Il y en a un certain nombre qui sont menacées de disparition, un peu plus d'une vingtaine. Et sur le territoire d'agrément du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, il y en a 34 qui sont protégées. Elles vont effectivement occuper des habitats qui sont extrêmement variés. Ça peut être des milieux humides, des milieux forestiers. On va en trouver aussi sur des pelouses sèches, calcaires. On a également des orchidées, on ne s'attend pas forcément à les voir là, mais sur des bords de route. Et également dans des jardins et des espaces verts.
Orchidée, ça vient d'où, le mot ?
Alors, orchidée ou orchidacée, hein, c'est la même chose, ça vient du mot orchis, du latin orchis, qui veut dire testicule. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de testicule quand on voit ces fleurs-là ? En fait, il y a une partie souterraine à ces fleurs, hein, ce sont ce qu'on appelle des géophytes, c'est-à-dire qu'ils sont des plantes qui ont des organes de réserve qui forment des tubercules ou des espèces de bulbes qui ressemblent à des testicules, tout simplement. Il faut savoir que les genres les plus représentés donc, sont, en France métropolitaine, orchis et ophris. Ce sont des noms masculins. Souvent, on dit une orchis et une ophris parce qu'on dit une orchidée, mais en fait, c'est masculin. Voilà, et puis il faut savoir que... On différencie par exemple orchis et ophris également à la forme des fleurs. Il y a les orchis qui vont avoir la production de nectar, alors que les ophris ne produisent pas de nectar. Mais du coup, on se pose la question, pour la pollinisation, comment ça se passe ? Les ophris, en fait, en grec, ça veut dire sourcil. Alors moi, j'ai cherché un peu à savoir pourquoi est-ce qu'on parlait de sourcil avec ces plantes-là. Je me suis dit, peut-être que ça vient du fait qu'il y a des poils sur les fleurs. Et ça les rapproche finalement des abeilles. Les abeilles ont une certaine pilosité aussi. Et la particularité des ophris, notamment pour sa reproduction, c'est d'imiter des abeilles solitaires femelles. Il faut savoir qu'elles ne produisent pas de nectar. Donc pour pouvoir attirer une abeille mâle, ben, il faut bien ressembler à quelque chose. Et quoi de mieux qu'une abeille femelle ? L'imitation est telle que, en fait, ces fleurs vont avoir à la fois les couleurs, la forme, mais également le parfum de l'abeille femelle. Et le mâle, en voulant s'accoupler avec cette fleur, va finalement se retrouver avec deux gros sacs de pollen sur la tête. Bon, il essaie de se reproduire, mais ça ne fonctionne pas. Il va aller voir une autre fleur, et ce faisant, il va transporter le pollen d'une fleur à l'autre, assurant ainsi la fécondation.
Ça, c'est pour les orchidées abeilles.
En fait, les ophris ont plusieurs espèces dans ce genre-là. Il y a l'ophris abeille, il y a aussi l'ophris bécasse, qui ressemble pas du tout à une bécasse, mais il y a l'ophris araignée, il y a l'ophris de Mars, qui fleurit en ce moment. Donc, il n'y a pas que l'ophris abeille, mais c'est vrai que l'ophris abeille ressemble à un insecte un peu comme une abeille. Et les autres aussi, ophris, ressemblent à des insectes, pas forcément des araignées ou des bécasses, comme je viens de le dire, mais à d'autres espèces d'abeilles. Chaque ophris, finalement, selon son espèce, va attirer un type d'abeille solitaire. Il y a une espèce de spécificité entre l'espèce d'orchidée, d'ophris, et l'espèce d'abeille.
Orchidées, donc, dont certaines espèces sont protégées.
Oui, parmi les orchidées, il y a pas mal d'espèces protégées. J'ai pas de chiffres en tête, mais Dans le secteur, on va trouver le Serapia sans cœur, dont j'ai déjà parlé lors d'une précédente émission. Il y a également l'orchis lacté. On va trouver des espèces qui sont pas forcément protégées, mais qui sont menacées, comme l'orchis à fleurs lâches, qu'on va trouver dans des milieux humides. On va trouver l'ophrys également à grandes fleurs, qui est très très rare, l'ophrys d'Aveyron. Il y a également une espèce qui est emblématique parce qu'elle ne ressemble pas du tout aux autres orchidées, ophrys ou orchis, qui est le sabot de Vénus, qui ressemble plus à une espèce finalement horticole, puisqu'il y a des sabots de Vénus aussi vendus en jardinerie. Mais là, le sabot de Vénus, c'est une espèce qui est endémique, qui est sauvage, et qu'on va trouver que dans certains secteurs, il a une fleur avec une espèce de ce qu'on appelle un label, en fait, jaune, et des pétales et sépales qui sont rouges. C'est vraiment une fleur qui est très grosse, voilà, et d'une rareté inédite.
Et on en fait quoi de ces espèces protégées? Comment on les protège? Qu'est-ce que vous faites au CBN?
Alors la protection, encore une fois, ça passe par la connaissance, ça passe par la diffusion de données, l'information des collectivités ou des propriétaires. Ça passe aussi par des mesures et de la gestion conservatoire, qui est pas trop complexe. Ça va dépendre des secteurs, de la surface, des outils disponibles. Mais la plupart des orchidées, je pense à l'orchis lacté, se retrouvent dans des prairies de fauche. Et si vous arrêtez la fauche, le milieu va changer et cette orchidée-là va disparaître, par exemple. Donc elle est intimement liée à des pratiques humaines. Donc c'est important de pouvoir maintenir la fauche. Encore une fois, quand on est dans des abords de villes, des zones en cours d'urbanisation, souvent l'agriculture mute. Et tout ce qui est lié à de l'élevage, par exemple, ou la fauche pour faire des foins, sont des choses qu'on va retrouver de plus en plus en périphérie. Et donc, les parcelles qui se retrouvent enclavées au milieu de lotissements ou de maisons vont plus être traitées comme une prairie de fauche. Et ça va s'embroussailler et les espèces protégées qu'il y a dedans vont disparaître, quoi. Et puis, vous allez avoir aussi des espèces qui vont se retrouver sur des espaces verts ou dans des jardins. Et à ce moment-là, pour avoir l'opportunité de voir fleurir ces espèces, il faut éviter de tondre. En ce moment-là, elles sont en train de faire leur première fleur ou leur première hampe florale. Elles ne demandent qu'à fleurir. Et souvent, la tondeuse vient les couper. Donc c'est important de les laisser fleurir jusqu'à ce que les graines soient disséminées, qui ça peut attendre le mois de juin. Si vous pouvez laisser dans votre jardin des espèces de petits îlots préservés de la tonte jusqu'à fin juin, vous verrez à ce moment-là tout le cycle de l'orchidée. Ça va des rosettes. Les rosettes, elles apparaissent dès le mois de novembre, en fait. Vous allez commencer à avoir des feuilles qui sont plaquées au sol, assez identifiables à leur couleur un peu vert bleuté. Elles vont passer l'hiver sous cette forme-là. Et puis, au printemps, les premières hampes florales, les fleurs vont éclore. Et à partir du mois de mai, ça va fructifier, ça va libérer des tas de petites graines minuscules comme de la farine qui vont être disséminées par le vent. Et ça va permettre aussi, dans votre jardin, d'en voir apparaître à d'autres endroits. Il faudra attendre 3 à 4 ans avant qu'une graine qui a germé puisse fleurir. Mais c'est des espèces qui sont en général des espèces pionnières, donc elles aiment bien les milieux ouverts comme ça. Petite particularité aussi, c'est que ces orchidées-là, souvent on se dit « Ah, moi j'aimerais bien la déplacer pour en mettre en pot ou ailleurs dans mon jardin parce que là elle me gêne. » Il faut savoir que cette plante, elle vit en symbiose avec un champignon du sol, qu'on appelle des mycorhizes. La particularité, c'est qu'en déplaçant la terre avec cette orchidée, vous déplacez également le champignon. Si le champignon se sent pas bien là où vous l'avez mis, le champignon peut mourir et à ce moment-là, l'orchidée aussi va mourir. Ça ne va pas être de suite, mais au bout de 4, 5, 6 ans, il se peut que l'orchidée ne fleurisse plus parce que le champignon aura disparu. Et ce champignon, il aide aussi à la germination de la graine. C'est une graine qui est dépourvue de réserves. La plupart des graines, en général, ont des réserves, hein, ce qu'on appelle les cotylédons. Et cette espèce, enfin les orchidées, ont la particularité de ne pas avoir de réserves. Et donc, le champignon va essayer de parasiter, en fait, l'embryon qu'il y a dans cette graine. Et ça va être une espèce d'équilibre qui va se trouver à un moment donné et il y a une symbiose qui va se former. Et la plante va pouvoir pousser grâce à ce champignon et ce champignon va pouvoir se développer grâce à cette plante. Le champignon va finalement jouer le rôle de racine secondaire pour absorber l'eau et les nutriments du sol, tandis que la plante va apporter les sucres issus de la photosynthèse pour nourrir le champignon. Voilà.
Pour bien faire, faut pas y toucher.
Faut pas y toucher pendant un petit temps, en fait, parce que on a du mal à voir après de l'herbe sèche comme ça dans un coin se développer alors qu'elle regorge de tout un tas de flore et de faune. Il suffit de se pencher, en fait. Au moment où vous protégez cet espace de la tonte, il y a plein d'autres fleurs qui vont apparaître que vous ne verriez pas si vous tondiez l'espace.
Urbaflore. Urbaflore.
Urbaflore.
À retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr. Le mois prochain, Jérôme, on parle de quoi ?
Comme d'habitude, on verra bien.
Jérôme Garcia, chargé de conservation au CBN, le Conservatoire Botanique National de Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Au mois prochain.
Bientôt.